Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 16 juin 2025. Voici les principaux titres de l'actualité.
G7, Lee Jae-myung part pour sa première visite officielle à l'étranger. Budget, le gouvernement prêt à dévoiler une deuxième enveloppe supplémentaire. Et enfin, tract anti-Pyongyang, Lee Jae-myung exige des sanctions contre les envois illégaux.
Le président de la République s'est envolé aujourd'hui pour le Canada afin de participer au sommet du G7. Pour sa première visite officielle à l'étranger depuis son investiture, Lee Jae-myung arrivera à Calgary lundi, heure locale, où il tiendra des entretiens bilatéraux avec plusieurs dirigeants participants. Outre les membres du G7, sept autres pays, à savoir la Corée du Sud, l'Australie, le Brésil, l'Inde, le Mexique, l'Afrique du Sud et l'Ukraine, sont conviés. Le lendemain, une session élargie réunira les pays membres ainsi que les nations invitées. Le chef de l'État sud-coréen prendra la parole sur des thèmes tels que la diversification des chaînes d'approvisionnement en énergie et le lien entre intelligence artificielle et énergie. Des pourparlers bilatéraux sont également en cours de préparation avec les États-Unis et le Japon. Un haut responsable de la présidence sud-coréenne a indiqué que si ces rencontres ont lieu, elle pourrait donner un nouvel élan aux négociations techniques, notamment sur des questions tarifaires. Par ailleurs, la participation de Lee au sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, prévue fin juin, semble de plus en plus certaine.
Pendant ce temps-là, le Comité de planification nationale a officiellement lancé aujourd'hui ses activités. Cette instance remplace le Comité de transition présidentielle. Elle est chargée de définir les priorités, d'élaborer un plan quinquennal pour chaque projet, exercera ses fonctions pendant 2 mois avec une possible prolongation allant jusqu'à 80 jours. Le comité sera dirigé par Lee Han-chu, proche conseiller du président Lee Jae-myung. Il sera épaulé par Chin Sang-jun, président du comité politique du Minju, Kim Yong-bom, chef du bureau de la politique présidentielle et Ban Ki-sun, ministre du bureau de coordination politique. Tous trois ont été nommés vice-présidents. Lee Han-chu a affirmé vouloir avancer rapidement dans l'élaboration des priorités gouvernementales tout en maximisant leur faisabilité grâce à la prise en compte des retours du terrain, à une gestion budgétaire rigoureuse, à l'adaptation des textes législatifs et à la rationalisation des réglementations. Sous sa direction, le nouvel organe s'articulera autour de 7 sous-commissions couvrant notamment la planification nationale, l'économie et les affaires sociales. Par ailleurs, un groupe de travail sera mis en place pour réfléchir à la réorganisation des structures gouvernementales. Seraient concernés entre autres le ministère de l'économie et des finances, celui de l'égalité des sexes et de la famille, celui de l'environnement ainsi que le parquet.
Le gouvernement est entré dans la phase finale de préparation du deuxième budget rectificatif de l'année. L'objectif est de mobiliser entre 30 000 et 40 000 milliards de won de dépenses publiques, soit entre 21 et 29 milliards d'euros. Ce montant inclut les 13 800 milliards de won adoptés le mois dernier par le Parlement pour le premier budget rectificatif. Cette fourchette correspond à la demande de 35 000 milliards de won formulés par le Minju en février avant l'élection présidentielle. Les coupons de consommation absents du premier projet devraient être intégrés au second. L'exécutif souhaite ainsi tenir sa promesse d'utiliser les finances publiques comme levier pour relancer la consommation intérieure. Le dernier point à ajuster concerne l'étendue des bénéficiaires. Pendant toute la campagne présidentielle, Lee Jae-myung et la formation de centre gauche ont soutenu que le versement universel stimule davantage la consommation. Ils s'inquiètent néanmoins des recettes fiscales potentiellement inférieures aux prévisions pour cette année. Deux options sont donc à l'étude: exclure les 10 à 20% des ménages aux revenus les plus élevés ou verser un coupon à tous en modulant le montant selon les revenus.
Économie toujours, la Corée du Sud suit de près l'évolution des marchés dans un contexte de flambée des prix du pétrole et de forte volatilité provoquée par les tensions militaires entre Israël et l'Iran. Ce matin, le gouvernement a réuni en urgence les agences concernées pour faire le point sur la situation au Moyen-Orient, ses répercussions sur les marchés mondiaux et l'économie nationale. Depuis la frappe aérienne israélienne sur une installation iranienne vendredi, la volatilité des marchés financiers et des prix des matières premières s'est intensifiée. L'équipe de réponse d'urgence a décidé de surveiller l'évolution de l'économie réelle et de réagir rapidement avec les institutions concernées en cas de mouvement inhabituel. Le gouvernement veut aussi garantir une gestion rigoureuse de l'approvisionnement en énergie tout en limitant les perturbations du commerce extérieur et de la logistique. Il prévoit notamment un soutien à la liquidité pour les entreprises exportatrices affectées ainsi que des espaces de fret maritime réservés aux petites et moyennes entreprises. Si les tensions logistiques s'aggravent, des navires supplémentaires pourront être mobilisés.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Le président de la République a ordonné samedi dernier aux ministères concernés de prendre des mesures préventives et répressives face aux envois de tracts anti-Pyongyang. Cette décision intervient après qu'une organisation civile a procédé dimanche matin à un largage de prospectus depuis l'île de Ganghwa. Dans un communiqué écrit, la porte-parole de la présidence a annoncé qu'une réunion interministérielle dirigée par le ministère de la Réunification se tiendrait aujourd'hui afin de discuter d'un plan d'action global. Kang Yujong a également précisé que des mesures strictes seraient prises contre l'organisation et les individus impliqués en fonction des éventuelles violations des lois en vigueur. L'administration Itaemian maintient sa position selon laquelle les envois illégaux de tracts vers le nord qui menacent la sécurité des habitants des zones frontalières et aggravent les tensions militaires sur la péninsule coréenne doivent cesser.
Un nombre croissant de personnes âgées travaillent ou cherchent à travailler en Corée du Sud. Le taux de la population active chez les individus de 60 ans et plus a ainsi atteint celui des jeunes, un phénomène causé par le retrait de ces derniers du marché du travail ainsi que du vieillissement démographique. Selon le service d'information en ligne géré par l'Institut national des statistiques, la proportion des 60 ans et plus au travail ou en recherche d'emploi a enregistré un record avec 49,4%, soit plus 0,8 points sur un an. Ce chiffre est en hausse continue depuis 2011 à un rythme toujours plus accéléré. Il rattrape désormais celui de la population active des 15-29 ans. Pour cette tranche d'âge, il est de 49,5%, en baisse depuis mai 2024. À noter que dans 10 régions sur 17, le nombre de personnes âgées actives ou souhaitant occuper un poste dépasse celui des jeunes. Cette tendance, initialement confinée dans de petites collectivités locales, s'est propagée dans les grandes villes dont Daegu et Gwangju. La participation accrue dans l'activité économique à un âge avancé reflète la paupérisation des 60 ans et plus. En 2023, le taux de pauvreté de ce groupe a atteint 38,2%, le plus haut niveau au sein de l'Organisation de coopération et développement économique. Leur pension de retraite moyenne était de 800 000 won, soit environ 507 euros, largement inférieure au frais minimum de subsistance d'un foyer à 4 membres, qui est d'environ 850 euros.
Et pour terminer, SK Group et Amazon Web Services construiront un centre de données dédié à l'intelligence artificielle d'une capacité de 100 MW au sein du complexe industriel national de Mipo à Ulsan. Une cérémonie d'inauguration est prévue ce mois-ci, suivie du lancement officiel des travaux en août. Le centre sera implanté sur un terrain de 36 000 m² dans le quartier de Hwangsang. La première phase d'environ 40 MW devrait entrer en service d'ici novembre 2027. Le projet atteindra sa pleine capacité de 103 MW avant février 2029. Il s'agira de la toute première infrastructure en Corée du Sud, spécifiquement équipée pour des processus graphiques d'une telle puissance. Environ 60 000 y seront installés. Les 12 entreprises prévoient chacune d'investir plusieurs milliards d'euros dans ce projet.
C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Hong-ju et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne semaine à l'écoute de KBS World Radio.